numéro 3. Mail français@radio.cz.
Mesdames, Messieurs, vous écoutez une édition spéciale du journal de Radio Prague, présentée par Magdalena Segertova. Il y a tout juste 60 ans, l'ancienne Tchécoslovaquie a été libérée du nazisme. À la une de l'actualité, donc, des célébrations qui se sont déroulées ce dimanche dans toute la République tchèque. À Prague, elles ont atteint leur point d'orgue avec le plus grand défilé militaire dans l'histoire de la République tchèque démocratique. Il a réuni sur l'esplanade de l'Etna près de 100 000 personnes. Reportage dans un instant. Toujours à Prague, les plus hauts représentants de l'État ont rendu hommage aux victimes du nazisme au mémorial de Vítkov. Et puis dans la soirée, des festivités ont été organisées au château de Prague. Nous vous emmènerons ensuite à Plzeň, qui a célébré pendant 4 jours sa libération par l'armée américaine. Aussi, vous entendrez une interview de l'ex-roi de Roumanie, Michel Ier, et du prince Radu, tous deux présents aux commémorations de la fin de la guerre en République tchèque. À l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les quartiers de l'Etna et de Dejvice à Prague, derrière le château et à 2 pas du ministère de la Défense et de l'État-major, ont été le théâtre d'un défilé militaire et d'une reconstitution de l'atmosphère de l'époque. Anna Kubishta était sur place.
Mai 2005, l'immense esplanade de l'Etna qui surplombe Prague est aussi traversée par une artère non moins impressionnante. Le vent glacial qui agite les drapeaux tchèques, américains, français, britanniques et soviétiques n'a pas empêché près de 100 000 personnes, selon certaines estimations, de s'y rassembler pour assister au défilé militaire historique le plus important en République tchèque depuis 1989. Pendant près d'une heure et demie, se sont succédés ambulances, jeeps et chars américains décorés de lilas, sidecars et autres véhicules de guerre, conduits par des membres des clubs historiques et militaires tchèques, mais aussi de l'étranger, tous revêtus de costumes et d'uniformes d'époque. Des touristes français venus de l'Aveyron se sont retrouvés un peu par hasard au beau milieu de ces commémorations et ont comparé avec ce qu'ils avaient déjà pu voir en France.
Disons, c'est plus strict chez nous qu'ici. Ici, c'est un peu la pagaille.
C'est différent.
C'est un peu plus bon enfant, oui. Mais enfin, ça doit leur faire drôle aux Tchèques de voir des drapeaux russes sur les tanks.
La partie réservée aux chars soviétiques semblait en effet tout droit sortie d'une photo sépia, presque une image d'Épinal amusante si on ne connaissait pas la suite de l'histoire. La parade américaine, par contre, était sans surprise, tout en grandeur, que ce soit dans le nombre de véhicules défilant ou bien dans sa durée. Marc, en uniforme de major américain, est un des nombreux participants à cette reconstitution historique. Qu'est-ce que représente pour lui, qui n'a pas connu la guerre, ce 60e anniversaire?
For me, that's a difficult question because I'm a German.
Pour moi, c'est une question difficile parce que je suis allemand. D'un côté, c'est un jour qui célèbre la fin de la guerre. Et de l'autre, pour nous, c'est un tout nouveau départ. Mais autrement, nous nous rendons tous les ans à Plzeň avec des amis anglais, français, hollandais, qui viennent de toute l'Europe. C'est quelque chose de vraiment très bien. Tous ces gens qui viennent des 4 coins de l'Europe avec leurs véhicules militaires et leurs uniformes sans bataille et sans combat.
Their military vehicle with their uniforms coming together without any fight and without any struggles.
À la fin du défilé, des hélicoptères et des avions de l'armée de l'air tchèque ont survolé l'esplanade. Et en première pour les spectateurs assemblés, 2 Gripen JAS-39, les nouveaux avions de combat suédois, récemment acquis par la République tchèque, ont fait leur baptême de l'air public. Moins monumental que ces défilés militaires, le quartier de Dejvice était aux couleurs et au goût des différents pays alliés. Des cantines américaines, britanniques, soviétiques, mais aussi polonaises avaient été installées. La cuisine française n'a pas été oubliée, avec un menu composé de ragoûts de fruits de mer, de ratatouille ou encore de tarte tatin. Tout cela au son des bagpipes, les cornemuses des troupes britanniques, qui ont attiré l'attention et les applaudissements des passants à chacun de leur passage au milieu de l'avenue Dejvice. Ou encore au son de l'orchestre mené par un chef enthousiaste et bonhomme, au milieu de la sévérité de ces défilés armés, sans doute un peu de la légèreté qu'octroie la musique, de celle que beaucoup ont dû ressentir il y a de cela 60 ans.
De l'hymne national, puis de 21 salves tirées, le principal acte de piété en hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale a eu lieu dimanche matin près du mémorial des légionnaires à Witkoff. Là, devant la tombe du soldat inconnu, les représentants de l'État, du gouvernement, du Parlement, ceux de la communauté des légionnaires, du mouvement Sokol et des combattants pour la liberté ont déposé des couronnes de fleurs et assisté à une prise d'armes et une marche d'une unité d'honneur de l'armée tchèque et d'une unité de la garde du château, Jarka Gisubleva.
Bravo! Bon.
L'acte de piété de toute solennité a suscité des sentiments de fierté et d'émotion au moment d'un défilé des drapeaux historiques de l'armée tchèque. C'était pour la première fois cette année, à l'occasion des 60 ans de la fin de la guerre, qu'une nouvelle symbolique militaire renouant avec les traditions de l'armée de la Première République s'est présentée à Witkoff. Ainsi, on a vu défiler les drapeaux historiques des légions tchécoslovaques en Russie, en France et en Italie, représentant la première résistance. Deux autres drapeaux représentaient la résistance antérieure pendant la Deuxième Guerre et trois autres les unités ayant combattu sur les fronts Est et Ouest. Une nouveauté, les unités ont défilé sous le ton de la marche des Hussites intitulée « Qui sont les combattants des dieux ?» Près de 380 000 Tchèques ont sacrifié leur vie dans la lutte contre le nazisme. Une minute de silence a été observée à leur mémoire.
Le président Václav Klaus a nommé à l'occasion de la fête nationale du 8 mai trois nouveaux généraux de l'armée tchèque. Samedi soir, lors d'une cérémonie solennelle à la salle espagnole du château de Prague, le chef de l'État avait rencontré les vétérans de la résistance antifasciste et anticommuniste. Neuf anciens combattants qui avaient participé à la libération de l'ancienne Tchécoslovaquie avaient été également promus au grade de généraux, dont trois in memoriam. Lundi 9 mai, le président Klaus sera parmi la cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement qui assisteront aux célébrations de la victoire sur l'Allemagne nazie à Moscou. Les vedettes du show business ont été au grand complet dimanche dans la soirée sur la place Hradčanské près du château de Prague où s'est déroulé le concert pour les héros. Les célébrations pragoises du 60e anniversaire de la fin de la guerre s'achèveront lundi soir au Sénat tchèque, plus précisément au jardin Wallenstein. Le public pourra y rencontrer les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. À présent, nous allons mettre le cap sur la ville de Plzeň en Bohême de l'Ouest, où a eu lieu un acte de piété devant le monument dédié aux pilotes tchécoslovaques, parti en 1939 via la Pologne et la France rejoindre la RAF britannique. Plzeň fut libérée plus tôt que Prague, le 6 mai 1945, par la 3e armée américaine du général George Patton. Reportage de Jarka Gisubleva.
5 divisions de la 3e armée américaine et le 5e corps de la 1ère armée américaine ont pris part au combat sur le front long de 350 km. Dans ces armées a été incorporée une unité de 140 soldats tchécoslovaques débloqués de la brigade blindée combattant près de Dunkerque et un bataillon de fusiliers belges. Une cinquantaine de vétérans américains et belges sont venus cette année à Plzeň pour les célébrations les plus importantes depuis 1990. En commémoration de la participation du 17e bataillon de fusiliers belges à la libération de Plzeň le 6 mai 1945, une plaque a été dévoilée à la mairie. Georges Ransonnet de la fraternelle du 17e bataillon de Belgique a déclaré lors de son inauguration.
Nous remercions les autorités de la ville de Pilsen de nous recevoir chaque année d'une façon extraordinaire. Mais nous sommes ici pour nous souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Ne les oublions jamais. Merci.
Parmi ceux qui ont libéré il y a 60 ans Plzeň, il y avait Louis Guil, originaire de la province de Liège, qui, à 21 ans, était sergent au moment d'entrer à Plzeň.
Au mois d'avril 1945, nous sommes arrivés par la frontière de Holizov, le village de Holizov, avec la 3e armée américaine. Notre bataillon était rattaché à la 3e armée américaine du général Patton. Et c'est comme ça que nous avons libéré à Holizov 3 corps de prisonniers, 2 corps de prisonniers d'hommes et 1 corps de prisonniers de femmes. Puis alors nous sommes arrivés ici jusqu'à Pilsen. Non, nous n'étions pas nombreux. Nous étions seulement une compagnie de soldats belges qui a eu la chance et le bonheur de délivrer et d'entrer en Tchécoslovaquie.
Vous vous souvenez de ce jour-là?
Oh oui, énormément. C'était quelque chose de plus que merveilleux, avec des fleurs et toute la ville était dehors. Les jeunes filles grimpaient sur les chars d'assaut. C'était la grande joie vraiment, oui.
Vous n'avez pas regretté qu'il ne vous ait pas été permis de libérer Prague, de continuer?
Ah si, énormément. Nous avons fait la jonction avec l'armée russe au Rokycany. Et puis alors, évidemment, nous sommes revenus ici à Pilsen jusqu'à ce qu'on ait les ordres de quitter le pays parce que à la conférence de Yalta, les Américains, les Russes et les Anglais ont décidé de laisser la Tchéquie aux Soviétiques. Et nous avons été obligés de partir. Ça a été très malheureux pour nous.
Monsieur Émile Godard était aussi de la délégation de vétérans cette année à Plzeň. Je lui ai demandé son souvenir de la libération de la ville.
Fou. Merveilleux. Nous avions vécu, 6 mois plus tôt, la même chose en Belgique. Nous avons aussi été libérés par les Américains. Alors on a revécu ça avec la sympathie des gens de Plzeň qui sont vraiment gentils. Et encore aujourd'hui, c'est la même sympathie qu'on retrouve quand on vient ici.
Vous écoutez le programme spécial de Radio Prague consacré à l'anniversaire du 8 mai 1945. Dans l'actualité aussi, l'ouverture à Bratislava, capitale de la Slovaquie, du festival Quatuor qui réunit les artistes, historiens et politologues de 4 pays du groupe de Visegrad, à savoir la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie. Débats, concerts, expositions et projections de films sont au menu. Le festival est dédié au 60e anniversaire de la libération et veut aussi faire le point de la première année des pays respectifs au sein de l'Union européenne. Margot Wallström, vice-présidente de la Commission européenne, a rendu hommage aux victimes du nazisme dans l'ancien camp de concentration de Térézine au Bois du Nord. Avec les représentants locaux, il a discuté de la mise en place d'une initiative intitulée Europrojet Térézine qui vise à transformer l'ancienne ville de garnison en un centre culturel, sportif et éducatif. Michel Ier, l'ancien roi de Roumanie, est une personnalité qui a joué un rôle très important dans la libération de la Tchécoslovaquie. À partir de 1944, il a pris la tête de l'armée roumaine pour chasser la Wehrmacht de son pays, puis a poursuivi l'offensive sur le front ouest jusqu'au territoire tchécoslovaque. À 83 ans, le roi, accompagné par son épouse Anne et son fils, le prince Radu, a honoré ces jours-ci la mémoire des milliers de soldats roumains tombés et disparus dans la région, notamment en Moravie, dans les villes de Kolomniec et de Brno. Michel Ier a répondu aux questions de Radio Prague en français au micro d'Alexis Rosenzweig.
Cette visite se passait ici, c'est spécifiquement fait pour nos soldats qui sont morts ici pour la libération de la Tchécoslovaquie. Il y a eu tous les endroits où j'étais jusqu'à maintenant, c'était des moments assez émouvants, on va dire. Parce que tout de même, ici, il y a 15 000 de nos soldats qui sont morts. Et puis il y a une cinquantaine de mille qui ont été, pas morts, mais ils étaient dans les hôpitaux, dans une situation assez grave. Et ça montre tout de même qu'on a fait quelque chose pour ici. Et ça continue encore. Tout ce voyage, c'était pour ça, au fond.
Le fils du roi, le prince Radu, a quant à lui insisté sur l'ancienneté et la profondeur des liens qui ont uni et unissent encore Prague et Bucarest.
L'exemple de la continuité de relations exceptionnelles entre la République tchèque et la Roumanie est peut-être pratiquement un modèle d'exemple. Prenez à partir du moment de la déclaration de l'indépendance de l'État tchécoslovaque jusqu'à aujourd'hui, combien de fois chaque génération a renouvelé et a reconfirmé cette amitié. Tout au début, le père du roi, le roi Charles II, avait des relations excellentes avec le premier président Masaryk. Et puis après, le roi, à son tour, avec le président Beneš. En 44, la Roumanie a perdu 15 000 vies de soldats roumains seulement sur le territoire tchécoslovaque et un nombre de plus de 66 000 de disparus ou bien blessés. Et puis après, n'oublions pas quand même 68, dans un système qui était mauvais du point de vue politique, les Roumains tout de même ont refusé de faire partie de cet épisode qui reste quand même comme une tragédie de nos jours qui s'est passé en 68. Et naturellement, la sympathie du peuple roumain. Non seulement des leaders qui ont décidé de ne pas participer en 68, mais les masses populaires qui avaient presque une émotion générale pour les Tchécoslovaques à l'époque est quelque chose que même moi qui étais un enfant à l'époque me rappelle absolument sans faille.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague. Dans l'actualité culturelle de ce dimanche, la clôture au parc des expositions à Prague du Salon du Livre 2005, dédié cette fois-ci aux littératures slaves. Le salon a accueilli entre autres l'écrivaine française Sylvie Germain. Et puis ce dimanche, c'est le début du concours international du festival Le Printemps de Prague. Sa 57e édition a convoqué dans la capitale des quatuors à cordes et de jeunes joueurs du clavecin. En sport, dans les huitièmes de finale du championnat du monde de hockey sur glace de Vienne, la République tchèque a battu la Slovaquie 5-1. Côté météo, lundi, le ciel sera chaotique avec des averses de pluie. Il fera toujours frais de 9 à 13 degrés. Une couche de neige d'environ 15 cm recouvre des montagnes tchèques et moraves. C'était l'édition spéciale du journal de Radio Prague. Notre programme se poursuit avec le magazine touristique.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc, Alain Slivinski.
La ligne Maginot, un système de fortification français bien connu, n'a pas servi à retenir les armées hitlériennes en dépit de sa puissance. Les armées de l'Allemagne fasciste ont contourné les fortifications, les forts et fortins, les postes d'artillerie, les énormes forteresses armées de cloches en béton de dizaines de tonnes, équipées des armes les plus modernes et les plus performantes de l'époque de l'entre-deux-guerres. La Tchécoslovaquie d'alors, très liée à la France, avait aussi construit sa ligne Maginot, Elle devait servir à résister à un éventuel envahisseur étranger, en l'occurrence l'Allemagne voisine, qui, sous la dictature de Hitler, comptait dominer l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Heureusement, il n'en fut rien, et nous pouvons célébrer le 8 mai 2005 le 60e anniversaire de la libération, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, nous vous amenons faire un tour sur deux ouvrages fortifiés datant de cette époque et qui sont ouverts au public. La construction d'un système de fortification qui protégerait les frontières de l'ancienne Tchécoslovaquie fut décidée dans le courant des années 20. Le gouvernement de l'époque était bien conscient de la menace que représentait l'Allemagne, surtout dans les années 30, après l'avènement d'Adolf Hitler au pouvoir. Les stratèges militaires de l'époque se basaient sur les connaissances et les expériences de la Première Guerre mondiale, expériences qui démontraient l'importance primordiale des systèmes de fortification. Pour cela, la Tchécoslovaquie des années 30 choisit l'exemple de la ligne Maginot française. Un système de fortification constitué d'ouvrages lourds et légers formant une véritable ligne de défense contre un éventuel agresseur. Le système devait s'étendre le long de toute la frontière extérieure de la Tchécoslovaquie de l'époque. Bien que le système de fortification terminait seulement en partie, en vérité désarmé, à part quelques postes de mitrailleuses ou canons, se soit présenté comme très imposant, il ne fut pas utilisé. En effet, l'Allemagne hitlérienne occupa la Tchécoslovaquie après le dictat de Munich. L'armée tchèque ne fut pas envoyée au combat, et ce qui est intéressant pour les touristes, justement, et les amateurs des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, les fortifications se sont en grande partie conservées. En plus, certaines sont ouvertes au public et leur visite en vaut vraiment la peine. Dobrochov, c'est le nom d'une des plus importantes fortifications de la ligne Maginot-Tchécoslovaque ouverte au public. Elle se trouve en Bohême de l'Est, dans la région de Náchod. C'est une forteresse de deuxième ligne, destinée à la protection de la frontière dans le cas où le système de défense avancé, composé de petits fortins, aurait été pris. La construction de la forteresse de Dobrochov, un énorme blockhaus, mais qui n'a pas été terminé, était planifiée sur 10 à 15 ans. Elle entrait dans la conception de la défense de la Tchécoslovaquie basée sur les systèmes de fortification. Une autre conception préconisait le renforcement de l'aviation et de l'infanterie motorisée. En fait, le système de fortification dans les régions frontalières n'a servi à rien. Aucun combat n'y a eu lieu. Joseph Farage, l'administrateur de la forteresse de Dobrochov, nous explique ce qu'il est advenu des anciennes fortifications.
V dnešní době ty dokončené tvrze jsou částečně v rukou armády, takže jsou to objekty veřejnosti nepřístupné.
De nos jours, les fortifications qui ont été terminées sont la propriété de l'armée. Cela veut dire qu'elles ne sont pas accessibles au public. Elles sont donc secrètes, disons. Certains ouvrages fortifiés sont administrés par des organisations bénévoles ou des clubs d'amateurs de l'histoire militaire. La forteresse de Dobrochov a été classée monument culturel national en 1995. C'est le seul monument national de ce genre en ce qui concerne l'architecture militaire. Grâce aux efforts d'un grand nombre d'amateurs des arts militaires, certaines forteresses ont été transformées en musées. C'est le cas de celle de Dobrochov. Elle se trouve sur une colline. Il faut gravir 232 marches pour y accéder. Pourtant, Dobrochov reçoit dans les 50 000 visiteurs par an. Ils peuvent admirer à l'intérieur une exposition de petits soldats représentant les forces de l'armée tchécoslovaque, des uniformes et des armes d'époque. Non loin de Dobrochov se trouve une autre position fortifiée. Elle porte le charmant nom féminin d'Anichka. C'est un poste d'artillerie le plus vaste en Tchéquie. 50 mètres de long sur 18 mètres de large pour un poids de plus de 12 000 tonnes. Intéressant d'apprendre la réponse à la question. Comment les servants des canons pouvaient-ils atteindre leur cible si la forteresse Anichka était cachée dans les bois sur une colline, mais d'où on ne pouvait pas voir la vallée ? C'est de nouveau Joseph Farage qui nous donne l'explication.
tenkrát v tom roce 1938 tady ten vrch byl absolutně holý a jelikož stejně by z tohoto objektu...
En ce temps-là, en 1938, cette colline était complètement nue. De toute manière, on ne voyait pas dans la vallée. Donc, sur une autre colline, dans un autre ouvrage situé en contrebas, il y avait un observateur qui guidait les tirs des servants du poste d'artillerie, cela grâce à une ligne téléphonique de campagne. Anička, le nom de la forteresse, ce qui veut dire Annette, c'est le nom de la commune voisine. La forteresse pouvait contenir une garnison de 400 hommes. Il pouvait tenir plusieurs mois. Des centaines de mètres de couloirs traversent le sous-sol, où se trouvent aussi des magasins de munitions et tout l'équipement nécessaire à la défense. Bien que n'ayant pas servi au combat, la forteresse porte des traces de tir. Comment cela est-il possible? Josef Farage.
Je to pozůstatek právě toho německého ostřelování z období okupace, kdy Němci vlastně na našich objektech trénovali.
Ce sont les vestiges des essais que les Allemands ont effectués sur les ouvrages fortifiés tchécoslovaques. Ils voulaient tester leur résistance et pour cela, ils ont employé toutes les munitions possibles en 1940. Malheureusement, ils ont utilisé leurs connaissances plus tard lors des combats contre les fortifications belges et françaises. Ce qui ne nous a pas plu du tout. Eh bien, voilà, chers amis, si vous aimez l'histoire, l'architecture militaire, les uniformes et les armes, nous vous conseillons de vous rendre en Bohême de l'Est, dans la région de Náchod, et de visiter les anciennes fortifications tchécoslovaques, les vestiges de la ligne Maginot tchécoslovaque. À part les deux forteresses dont nous avons parlé, bien d'autres ouvrages fortifiés sont ouverts au public, en Bohême, en Moravie et en Silésie, cela dans la région d'Ostrava et Opava. Une occasion de remonter dans le passé en cette année du 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était une petite balade touristique en République tchèque à l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, spécialisée donc dans les forteresses. Et c'est la fin de l'émission en langue française de Radio Prague.